solennel qui ne lui était pas coutumé. Nous sommes pris à la gorge par les gros à la solde de l'étranger. Nous allons devoir vendre l'épicerie. Madame Lefranc opina du sous-chef, car c'était une femme réservée. Hélas, l'épicerie, forcément, personne n'en voulait. À quelque temps là, alors qu'il gloutait ses petits blancs en maudissant le Maghreb, Vichy Saint-Yor et les établissements Mammouth, Monsieur Lefranc vit venir à lui un petit homme bien mis, quoique de style relativement basané. Bonjour, monsieur le président, vous êtes bien monsieur Lefranc?
Qu'est-ce qu'il me veut, ce melon?
Lança monsieur Lefranc, prenant la salle à témoin de l'imprévidence de l'intrus. Je vous prie, m'excusez, je ne suis pas un melon, je suis épicier, dit le petit homme. Je m'appelle Rachid Cherkaoui, j'ai vu que vous cédiez votre bail, ça m'intéresse. Merde alors! Dit monsieur Lefranc en tapant sur la table. Ça me ferait vraiment chier de voir un fainéant bicot dans mon magasin, plutôt crevé. Après s'être ainsi brillamment exprimé, monsieur Lefranc se dit qu'il ne tomberait jamais deux fois sur pareil logo. Le lendemain, en toute discrétion, il signait la cession de son bail à monsieur Rachid Cherkaoui. Puis il prit le train à Montparnasse pour aller finir ses jours en Morbihan dans sa villa Kermaïkaf en compagnie de madame Lefranc qui se consolait de son ultime étreinte dans le pétrin en caressant des jeunes projets de barater le grenier de la rue du Varec, de Quimperlot et de Trèves. On n'entendit plus jamais parler d'eux. Dans le quartier, nous sommes très contents du nouvel épicier pour des fainéants. C'est incroyable de voir à quel point les épiciers arabes se lèvent tôt et se couchent tard. C'est à se demander quand ils regardent les jeux de 20h. Pour nous, c'est vraiment pratique. Le dimanche soir, par exemple, M. Rachid ne ferme jamais l'épicerie tant que le quartier n'est pas rentré le week-end. Dimanche dernier, je suis allé chercher une salade et un pain de mie. À 9h du soir passé, c'était encore ouvert. Il était en train de jouer au domino avec un autre Marocain qui lui ressemblait beaucoup. C'est mon frère Mohamed. Mohamed, je te présente un client très gentil. Je suis très gentil. Je dis bonjour, monsieur Mohamed. Vous êtes aussi du quartier? Oui, monsieur, je viens de racheter la boucherie de la marque. La boucherie de monsieur le roi? Je m'étonnais que monsieur le roi, qui avait la même fierté, le même foi, le même front que monsieur Lefranc, ait consenti lui aussi à céder son commerce à un individu de type non-gaulois vachement prononcé. Au début, il a fait des difficultés, reconnut monsieur Mohamed. Il a dit qu'il ne traitait pas avec les melons. Je lui ai dit, monsieur le roi, on vous aura mal enseigné, je ne suis pas un melon, je suis blanchisseur. Il a gueulé quoi, ma boucherie, pour en faire un pressing? Mais ils sont pas bien, ces ratons! Moi, j'ai dit, je ne suis pas un raton, monsieur le roi. Je vous dis que je suis blanchisseur. Raton laveur, à la rigueur, s'il vous plaît. Alors, il m'a foutu dehors. On a signé le lendemain. Je me rappelle que ce dimanche soir-là, avant de me laisser partir avec mon pain et ma laitue, Monsieur Rachid avait tenu à nous faire goûter un petit Sancerre blanc de l'année qu'il venait juste de recevoir, encore un peu vert mais très fruité. Lui-même ne s'en était servi qu'un tout petit fond de verre, par politesse, pour trinquer. Comme il dit, il faut que je fasse attention. Je suis moitié musulman, moitié diabétique. Mais moi, je sais bien qu'il préfère les Bordeaux rouges. Ce matin, pour la première fois depuis 6 mois, le rideau de fer de l'épicerie Cherkaoui est resté baissé. Monsieur Mohamed, dans tous ses états, m'a appris que son frère venait d'être hospitalisé avec 10 points de suture au visage et avait été attaqué au couteau. À la nuit tombée par des inconnus. Alors, monsieur Mohamed et moi sommes allés chez le fleuriste d'à côté faire l'acquisition d'une poignée d'anémones et puis j'ai accompagné à l'hôpital. Les rues de Paris sont plus sûres. J'ai reçu une lettre d'un spectateur tellement en colère qu'il a oublié de signer. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, c'est fou le nombre d'étourdis qu'il y a parmi les gens courageux. J'ai gardé dans mes archives de presse un très beau portage. et de l'alcool irlandais. Le regard est pointu mais fatigué, la fossette arrogante, la voix profonde comme un chagrin, lasse et désabusée, ébréchée à cœur par un demi-siècle de fureur alcoolique, subjugue les cinéphiles studentins et fait vibrer les femmes amoureuses de l'amour. Il marche comme personne, il marche massif et félin, il marche comme un taureau élastique et court au ralenti dans la nuit du chasseur. C'est un homme infiniment présent et pas du tout commun. Quand on lui parle de son métier, il ne dit pas tout à fait la même chose que la plupart des acteurs sacrés du cinématographe. Quand on lui demande ce qu'il aime le plus dans son métier, l'acteur sacré du cinématographe dit: c'est un métier très difficile, il demande beaucoup de générosité, je m'y donne tout entier. Mais tu me dis, c'est un métier facile. L'autre jour, on m'a dit, entrez par cette porte, j'entre par cette porte, et j'étais très content. Quand on lui demande ce qui a conduit à choisir cette carrière, l'acteur sacré du cinématographe dit, toute ma vie, j'ai senti en moi le besoin impérieux de communiquer, quelque chose qui m'interpelle comme ça, quelque part. Quand on pose la même question à Robert Mitchum, quand on lui demande quel a été le déclic de sa carrière, il répond: un jour j'ai vu les aventures du chien Rintintin à la télévision et je me suis dit, si lui peut le faire, Quand on s'étonne qu'il n'aille jamais voir les films dans lesquels il a joué, l'acteur sacré du cinématographe dit, c'est une épreuve au-dessus des forces, je me trouve atrocement mauvais. Mitchum non plus ne va jamais voir ses films. Il dit qu'il n'y est pas obligé par contrat. Et il ajoute, si je travaillais à la chaîne chez Ford, je ne passerais sûrement pas mes dimanches à aller regarder les voitures que j'aurais fabriquées pendant la semaine. Quand on s'angoisse de savoir quel a été le plus beau jour de sa vie, l'acteur sacré du cinématographe dit qu'il n'oubliera jamais le jour où il a reçu le César des propres mains d'Oscar, ou l'Oscar des propres mains de Marius. Non, mais il ne sait plus, il est ému, il étouffe un court sanglot admirable, le pudeur. Robert Mitchum se souvient, le plus beau jour de ma vie, c'était vendredi dernier, on a arrêté le tournage 2 heures plus tôt que prévu. Bien sûr, il y a chez cet homme un coup prononcé pour la provocation dont Brecht a dit qu'après tout, elle n'était peut-être qu'une façon abrupte de remettre la réalité sur ses pieds. Peut-être aussi que Robert Mitchum n'est pas tout à fait sincère quand il dénigre son métier. Peut-être on va savoir qu'il le fait aussi par amour, mais qu'il n'est pas dupe, ni ébloui par l'éclat outrancier des projecteurs. Peut-être qu'il a une vraie pudeur, qu'il pousse à montrer son cul pour cacher son cœur. Peut-être qu'il est lucide. Ça expliquerait qu'il voit. Dans ces métiers péripatétiques du showbiz et des médias, on rencontre beaucoup de monde. En particulier, cet environnement pléthorique est la porte ouverte à toutes les gaffes. On a beau avoir une excellente mémoire, cela n'empêchera jamais personne d'être incapable de reconnaître, au bout de 10 ans de cocktail et de première, une pétasse bien ravalée d'une star authentique. La gaffe la plus notoire dans ce domaine avait pour cadre le théâtre de l'Odéon de Roy. Lors de la générale d'un vaudeville progressiste avec Message à gauche et Armand Van Placard, un grand acteur de cinéma s'était trouvé assis auprès d'un fringant quadragénaire dont il était sûr qu'on le lui avait présenté. Mais c'est là, sous la soupe. À l'entracte, ébauche de conversation, le comédien, justement pour éviter les gaffes éventuelles, branche assez naturellement le blabla sur le spectacle de ce soir. C'est nul cette pièce, non? Je suis l'auteur, soupire l'autre. Non, je veux dire, le texte est très bon. Mais il y a une telle platitude dans la mise en scène que je suis le metteur en scène. Ah bon. Non, mais comment dire? La vieille qui joue la mère abusive, elle est vraiment tarte. C'est ma mère, monsieur. Le chauffeur du taxi 790 BRR 75. Je ne vous oublierai jamais. Aussi longtemps que Dieu me prêtera vie, merci mon Dieu de me laisser le cancer en survivre, je reverrai avec une diabolique précision d'entomologiste la misérable configuration boursouflée de votre sale gueule de turfistement. La balourdise chafouine de votre regard borné et la vulgarité indicible de vos traits grotesques encadrés derrière votre pare-brise avec des grâces de tête de veau guettant la sauce ravigote à la vitrine du strip des bovins. Homer ou Ray Charles, je ne sais plus quel aveugle de naissance, ose affirmer que l'habit ne fait pas le moine, et il y a pourtant des tronches qui sont des habits. Et la vôtre, monsieur le chauffeur du taxi 790 BRR75, ne mérite pas de pardon. C'était par un de ces matins d'avril parisien, tout frémissant de printemps sous les platanes vert tendre, où l'imbécile et le poète se prennent à trouver la vie belle. Vous vous êtes rangé le long du trottoir, à 10 mètres devant moi. La porte arrière, côté trottoir, s'est entrouverte, avec une lenteur infinie, sous la pression désordonnée d'une main fébrile que prolongeait un bras nu décharné. C'était une main effroyablement tordue par les rhumatismes, désespérément crochue pour ne pas lâcher la vie, une main translucide, parsemée de ces étranges taches brunes et lisses qui dessinent parfois d'improbables mouches sur la peau des vieillards finissants. Au prix d'un effort pictural surhumain de sa main jumelle, cette main pitoyable rutilait par 5 fois de l'éclat saugrenu d'un vernis cerise. Dérisoire coquetterie de la très vieille dame qui devait constituer à l'évidence la partie cachée de ce membre à peine supérieur. Je ne le dis pas à votre intention, monsieur le chauffeur du taxi 790 BRR75, car il me plaît de penser que la sérénité de votre abrutissement global ne vous autorise pas à hisser votre entendement au-dessus d'une rumination céphalogastrique de base. Mais il me semble que nous ne devrions pas sourire de cette ultime tentative de plaire qui incite les vieillards au bord du gravat à continuer à se peindre. C'est peut-être une expression de l'instinct de conservation. J'ai entendu un jour Madame Simone Veil faire observer que la plupart des rescapés des camps de la mort nazis avaient puisé la force morale et physique de survivre dans un souci quotidien de fragile dignité qui les poussait à continuer de se tailler la moustache ou de se presser les nattes jusqu'au fond de leur enfer. De la portière que la première main maintenait tant bien que mal entrouverte, la seconde a jailli, fébrilement cramponnée à une sobre canne blanche qui battait l'air en tous sens à la recherche aveugle d'un bout de trottoir ou de caniveau. En même temps, la tête et la jambe gauche de votre cliente, monsieur le chauffeur, tentèrent une première sortie de l'habitacle enfumé de gauloises et tendu de scaille craquelée qui vous tient lieu de gagner par automobile. C'était une jambe vieille de vieille. Autant dire un tibia décharné, avec un gros genou ridicule en haut. Et à l'autre extrémité, un escarpin noir, dont la boucle dorée tentait en vain d'apporter un éclair de gaieté pédonculaire à ce mollet posthume. Incapable de s'extraire seul de votre taxi, cette si vieille dame lançait tant bien que mal à petits coups comptés de sa nuque fripée une tête ratatinée de tortue finissante, dont les yeux usés appelaient à l'aide en vain, au-dessus d'un de ces sourires humbles des vieux dont Brel nous dit qu'il s'excuse déjà de n'être pas plus loin. Enfin, elle apparut à la rue tout entière, en équilibre au bord de la banquette, à garde, en détresse, les bras tendus vers rien, les jambes ballantes au-dessus du bitume, le corps brisé, péniblement fagoté dans un sombre froufrou Et la parure, il n'y plus en